Vous écoutez On lit pour vous.
Apprendre à se battre pour mieux parler, un texte de Rose-Aimée Autonne-T-Morin, paru le 16 octobre 2024 dans la presse. Il doit bien faire 1000 degrés, malgré la climatisation. On dégouline de partout. Les 8 gars qui m'entourent se frappent avec une précision qui impressionne. Chez Horizon Tatami, on allie arts martiaux et interventions psychosociales pour aider les jeunes à risque sur des enjeux sociaux, économiques et familiaux. Au fil de la semaine, les volontaires âgés de 12 à 25 ans peuvent assister à différents cours gratuits. Chaque fois, ils sont accompagnés par un entraîneur et un intervenant psychosocial. Plusieurs de ceux qui profitent des cours veulent apprendre à se défendre. C'est que le gym est situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal. Le coin a connu son lot d'événements violents dans les dernières années. L'intervenante Valérie Fournier m'a expliqué que certaines personnes ne se sentent pas en sécurité dans leur quartier. Bien des parents s'inquiètent aussi, surtout pour leurs filles. Valérie se rend donc à elle en offrant des ateliers d'arts martiaux dans des organismes communautaires, des maisons de jeunes et des écoles. L'organisme a aussi commencé à offrir des cours non mixtes pour cibler une clientèle féminine, mais le cours de boxe thaïlandaise de ce soir est ouvert à tous. Et tandis que je m'initie tranquillement à la pratique, je réalise que je vais souffrir. Le directeur général d'Horizon Tatami est un gars à la carrure imposante. Nicolas Lachance-Barbeau a une maîtrise en travail social et fait de l'intervention par les arts martiaux depuis 2012. Quand je lui ai demandé ce qui l'a mené vers cette approche, il m'a offert une délicieuse image. Quand le seul outil que tu as, c'est un marteau, tout ressemble à un clou. Nicolas a commencé à pratiquer les arts martiaux pour se sortir d'une période qu'il qualifie de vraiment difficile à l'adolescence. Une fois diplômé, pour aider ceux qui en avaient besoin, il a donc eu recours à l'outil qui l'avait éloigné de la délinquance. Nicolas estime que les arts martiaux savent nous plonger dans une situation de vulnérabilité. On se fait frapper, étrangler, soumettre, tout en ayant confiance que notre partenaire respectera nos limites. Ça exige une communication claire. Surtout, ça engendre une posture de proximité. Nicolas Lachance-Barbeau a commencé ses activités à Saint-Laurent en 2016. Les cours qu'il offrait au parc Painter étaient si populaires que le programme a vite grossi. En 2021, Horizon Tatami avait pignon sur rue. Le volet commercial de l'organisme, l'école d'arts martiaux Jiu-Jitsu Saint-Laurent, ouverte à tous, finance depuis les ateliers gratuits de son volet d'intervention Lion Kings MMA. L'organisation a su rejoindre des milliers de jeunes, mais au-delà des adolescents de passage, elle s'inscrit de manière pérenne dans la vie de certains. Depuis le début de l'année, 75 participants se sont engagés dans une démarche qui inclut des cours, mais aussi des suivis personnalisés, des objectifs précis à atteindre et des heures de bénévolat à offrir. Nicolas s'est montré gêné quand je lui ai demandé des exemples d'interventions qui le rendent fier. Il n'aime pas romantiser la profession. Mais bon, il y a bien sûr ce jeune qui s'intéressait au milieu d'extrême droite et qui, après avoir eu des expériences positives avec la diversité culturelle présente au gym, s'en est éloigné. Il y a ces adolescents qui ont arrêté de consommer ou encore ceux qui ont quitté un milieu criminel. mais ça ne fonctionne pas toujours, ajoute le directeur général d'Horizon Tatami. Parfois, il faut apprendre à lâcher prise. Le Muay Thai, aussi appelé boxe thai, est un art martial basé sur les coups de pied, de poing, de genoux ou encore de coude. Ce soir, 8 jeunes hommes et moi apprenons à faire une combinaison de direct au visage, crochet et coup de pied bas. Les gars connaissent déjà visiblement les mouvements. Ils les enchaînent avec fluidité, ne brisant leur concentration que pour lancer un conseil à leur partenaire. Valérie Fournier prend donc le temps de m'aider à apprivoiser les coups. Si tu sais que t'es pour en manger un, t'es mieux de te commettre et d'avancer ton corps. Une autre belle image. Je freine mon instinct de fuite pour foncer dans l'adversité et vers une solide ecchymose sur la cuisse gauche. L'entraîneur, lui, passe d'un duo à l'autre pour proposer des ajustements aux participants. Mouad Belkeir a commencé à suivre des cours offerts par Nicolas quand il avait 16 ans. À l'époque, il subissait la pression d'autres jeunes. 7 ans de pratique soutenue plus tard, il est devenu entraîneur au sein de l'organisme qui lui avait permis d'acquérir la confiance en lui. « Tu comprends, dit-il, que tu as des capacités et tu n'as plus rien à prouver au monde. Tu développes un contrôle de toi-même. Quand je vais au cégep et qu'il y a plein de gagnes, moi, je marche. Je fais ma vie, tu sais. » Après avoir fait beaucoup de courses, donné une trolée de coups et en avoir reçu autant, je peux enfin reprendre mon souffle. Valérie fait signe à Mouad qu'il est l'heure de se poser. Chaque cours se termine par 15 minutes de discussion de groupe. Parfois, on revient sur un événement survenu dans le quartier. Sinon, on s'appuie sur une thématique mensuelle, par exemple la cyberviolence, la nutrition, le consentement ou la masculinité. Je m'assois avec les participants qui se placent en cercle. Aujourd'hui, Valérie veut savoir quel est, à leur avis, le meilleur art martial à maîtriser si on doit se battre hors du gym. Plusieurs lèvent la main. Le premier lance la course. Tout le monde rit. Dans les minutes qui suivent, plusieurs soumettent leur théorie et chaque fois, ils soutiennent que la chose à faire est de repousser efficacement l'ennemi pour ensuite fuir. J'aime leurs intentions. J'aime aussi le fait qu'ils se relancent tout en s'assurant de laisser parler leurs comparses et de ne couper la parole à personne. Visiblement, ils sont non seulement habitués à se battre, ils sont aussi habitués à se parler. Et il est peut-être là le plus beau des acquis. C'était « Apprendre à se battre pour mieux parler », un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 16 octobre 2024 dans la presse.
L'Amérique française. Un texte d'Yves Boisvert, paru le 3 novembre 2024 dans la presse. À l'été 2024, en roulant entre Minneapolis et Mankato, une fleur de lys sur un château d'eau a attiré mon regard. J'ai pris la sortie. Faribault, Minnesota, 25 000 âmes, manquait à ma culture. Sur les portes de l'hôtel de ville, sur les oriflammes dans le vieux centre-ville, dans les emblèmes municipaux, le symbole de la vieille France est partout, même si personne ne parle plus français ici. On connaît l'épopée des explorateurs français et québécois, des anciens Canadiens, qui ont laissé partout leurs traces dans ce qui s'appelle maintenant les États-Unis depuis le 18e siècle. Mais le Faribault, qui a donné son nom à cette ville autrefois prospère, n'est pas de la génération des découvreurs européens. Alexandre Faribault arrive 200 ans plus tard dans l'histoire. Il fait partie d'une autre génération de voyageurs, trappeurs, coureurs des bois et commerçants. Ceux qui ont colonisé le Midwest après qu'il est devenu américain, Napoléon ayant bazardé cet immense territoire en 1803. Alexandre était en fait un Américain, fils d'un notaire de Berthier, venu faire fortune dans le commerce des fourrures autour des Grands Lacs et d'une métisse issue de la nation Dakota. C'était une époque où les frontières étaient fluides, les métissages naturels. Mais des Grands Lacs aux plaines et même jusqu'aux Rocheuses, la langue européenne dominante était le français, explique Gilles Avard dans son « Histoire des coureurs de bois » Tempus 2021. Avard raconte même que les trappeurs canadiens français disaient aux Indiens du Haut-Missouri que les Français étaient les vrais propriétaires des États-Unis. Mais quand venait le temps de prendre parti entre les Américains et les Anglais, ces Français de la frontière se rangeaient du côté américain, quitte à être emprisonnés par les Britanniques. Voici la ville de Nicolet, Minnesota. L'histoire du Québec a retenu le nom de Jean Nicolet, avec un seul L. Trappeur et explorateur, il s'est rendu jusqu'au lac Michigan en 1634. Mais qui est donc ce Nicolet avec deux L? Celui-ci est né en France, comme l'autre, mais 200 ans plus tard. Mathématicien, astronome, découvreur d'une comète, il avait une notoriété certaine dans les cercles scientifiques de Paris. Jusqu'à ce qu'il fuit pour l'Amérique, après avoir tout perdu à la bourse en 1832. Il n'est donc pas un envoyé ni un explorateur du gouvernement envoyé en Amérique, mais un homme qui veut échapper à ses créanciers et à l'emprisonnement pour dette. Il se retrouve à Saint-Louis, ville devenue américaine, mais encore française culturellement, et part explorer le Haut-Mississippi pour le cartographier, ce qu'il fait avec une grande précision, en plus de noter les noms donnés par les peuples autochtones. Ses travaux ont fait autorité. En 1835, un journal de New York affirme qu'un astronome a vu des animaux et des formes humanoïdes sur la Lune grâce à un nouveau télescope, et on accuse injustement Nicolet d'être derrière ce canular. Il est mort sans qu'on sache en France ce qu'il avait accompli aux États-Unis et sans qu'on sache aux États-Unis ce qu'il avait réussi en France. Celui qui saura concilier les avantages du passé et les besoins de l'avenir triomphera, peut-on lire sur sa pierre tombale. Avant de s'appeler Chicago, la capitale du Midwest avait été visitée par Marquette et Joliet. Mais il n'y a pas si longtemps qu'on célèbre Jean-Baptiste Pointe du Sable comme le fondateur de la ville. Né apparemment à Saint-Domingue, en Haïti, autour de 1745, d'un père venu de Nouvelle-France et d'une esclave libérée, il se retrouve en Louisiane, puis à Saint-Louis, où il se lance dans le commerce des fourrures lui aussi. Marié à Kitiwaha, la fille du chef Potéwatami, il finit par installer un poste de ravitaillement pour les voyageurs. Leur fille, née en 1796, est considérée comme la première à naître dans ce qui s'appellera bientôt Chicago. Il a fait plusieurs voyages au Québec. Il est mort dans l'anonymat complet. Si ce n'est qu'on dira qu'un homme noir est enterré dans le cimetière de Saint-Charles, au Missouri, sans qu'une pierre retienne même son nom. La ville le reconnaît maintenant comme le fondateur de Chicago, un buste à son effigie est installé au centre-ville et la poste américaine lui a consacré un timbre. En courant en surplomb du lac Michigan à Milwaukee, j'ai aperçu une cabane de bois, pas tout à fait rond, réplique de l'habitation de Laurent Salomon Junot, le fondateur de la ville. Un gars de Repentigny, ce Junot, né en 1793. Parti gagner sa vie avec la compagnie de l'abbé Dutson, il a, lui aussi, été marié à une métisse du Midwest et a fini par s'installer dans cette baie qui allait prospérer. Junot aussi, d'ailleurs, a prospéré. Il est devenu le premier maire de la ville lors de sa fondation en 1846 et l'histoire officielle s'est souvenue de lui. Son neveu, Joe Junot, de Saint-Paul-l'Ermite, a donné son nom à la capitale de l'Alaska où il était parti chercher de l'or. Ce doit être le mal du pays, mais je peux me perdre pendant des heures dans ces histoires de remarquables oubliés, comme disait Serge Bouchard. Elles me montrent une Amérique qu'on ne nous a pas enseignée ou qu'on n'a pas voulu glorifier. Celle d'aventuriers un peu cinglés, iconoclastes, désobéissants, inventeurs d'une nouvelle façon de vivre, métissés, hors des sentiers du conformisme. Comme de toutes petites touches sur la carte américaine, leur souvenir est partout. Eau claire, prairie du chien, butte des morts, fond du lac, baie minette, lac qui parle. Ces mots chargés d'histoire deviennent une sorte de poésie autoroutière. Ils ouvrent un territoire imaginaire et nostalgique infini aux voyageurs de 2024, sachant que le mot lui-même s'est dégradé quand on pense un peu à ce qu'était un voyageur. C'était l'Amérique française. Un texte d'Yves Boisvert, paru le 3 novembre 2024 dans La Presse.
Prendre soin de sa bouteille d'eau, mode d'emploi. Un texte de Florence Dancause, paru le 3 octobre 2024 dans La Presse. De la maison au bureau, en passant par le gym ou le resto, la bouteille d'eau nous suit désormais partout. Mais à quand remonte son dernier nettoyage? Si la réponse est quelques jours, il y a lieu d'y voir. De la moisissure et surtout des bactéries pourraient y proliférer et occasionner des symptômes désagréables. À quel moment devrais-je laver ma bouteille? La recommandation, c'est de la laver au moins une fois par jour et pas seulement de la rincer, lance d'emblée Mark Hamilton, président de l'Association des microbiologistes du Québec, AMQ. On utilise donc du savon, de l'eau et une brosse pour bien frotter toutes les parties de la bouteille, le goulot, les joints, la paille, tout. Le lave-vaisselle est aussi une excellente option, indique le microbiologiste. On pense que notre gourde, parce qu'on met juste de l'eau dedans, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas de l'eau stérile ni une bouteille stérile. On doit redoubler de vigilance et de nettoyage lorsqu'on met une boisson sucrée dans sa bouteille. Vous donnez un cocktail terrible aux bactéries, expose Mark Hamilton. Il en va de même avec le café au lait qu'on met dans une tasse réutilisable. On crée un milieu propice pour les bactéries. On n'arrive pas à atteindre certains coins? On peut faire tremper toutes les pièces de sa bouteille pendant une nuit dans un récipient rempli à moitié d'eau et à moitié de vinaigre ou bien avec de l'eau et une cuillère d'eau de Javel. On rince bien ensuite la bouteille pour éliminer toute trace d'eau de Javel ou de vinaigre. Si on remarque que de la moisissure a proliféré, on essaie de la déloger en la frottant avec un mélange d'eau et d'un peu d'eau de Javel. La bouteille sera peut-être ensuite altérée ou décolorée, mais on pourra continuer à l'utiliser si la moisissure est bien partie, explique le président de l'AMQ. Et on n'oublie pas de bien rincer à l'eau après l'avoir frotté avec ce mélange. Est-ce vraiment grave si je ne lave pas souvent ma bouteille? Pour le président de l'AMQ, c'est essentiellement une question d'hygiène. Par contre, si on ne nettoie pas souvent sa bouteille, on augmente toujours le risque d'être en présence de micro-organismes qui pourraient nous donner des effets secondaires, prévient-il. Les moisissures qui apparaissent dans les bouteilles d'eau ne l'inquiètent pas outre mesure. L'avantage, c'est qu'avant qu'elles causent des effets secondaires, on va les voir avec leur couleur rougeâtre ou verdâtre et il va se créer une odeur. Par contre, une mycose de la bouche et des désordres intestinaux pourraient survenir. Les bactéries sont plus sournoises, indique-t-il. Dans une étude de 2018, des chercheurs brésiliens ont analysé l'intérieur de bouteilles d'eau et 83% d'entre elles étaient contaminées par des bactéries, surtout des staphylocoques et la E. coli, qui sont potentiellement pathogènes, explique Mark Hamilton. Ces bactéries peuvent se retrouver sur les mains et finir par entrer dans la bouteille quand on la manipule. On l'ouvre avec nos mains. On touche le capuchon, on la remplit, on la referme, on se met ça dans la bouche. Ça n'en prend pas beaucoup, explique le microbiologiste. On a juste besoin d'une colonie de colis et l'eau est déjà non potable. Les conséquences sont plus que désagréables. Des symptômes sévères d'intoxication alimentaire, de la fièvre, des problèmes gastriques, de la diarrhée et, si je vais plus loin, de l'insuffisance rénale, énumère le président de l'AMQ. À quel moment devrais-je changer ma bouteille d'eau? Selon des recherches, une gourde en plastique dure en moyenne une année et celle en acier inoxydable 3 ans, explique Mark Hamilton. C'est à peu près à ce moment que l'intérieur de la bouteille commence à présenter des égratignures et des bosses. C'est propice à ce que les bactéries puissent s'y accrocher et puissent créer un biofilm facilement. Mais tout est question de discernement. Par souci écologique, on garde souvent ces bouteilles de nombreuses années. On devrait donc s'assurer de les nettoyer à chaque utilisation et peut-être de les changer quand les signes d'usure sont bien présents. En savoir plus. Source, analyse de MLab PNK 2017. 300 000, c'est la moyenne du nombre de bactéries formant des colonies par centimètre carré qui se trouvent dans les bouteilles d'eau réutilisables après une semaine sans nettoyage. C'était « Prendre soin de sa bouteille d'eau, mode d'emploi », un texte de Florence Dancause, paru le 3 septembre 2024 dans La Presse.
À Calgary, le logement se heurte aux clauses restrictives. Un texte de Radio-Canada, avec les informations de Karina Zapata, paru le 23 septembre 2024 sur Ici Alberta. Dans le sillage de l'entrée en vigueur de nouvelles règles de zonage à Calgary, des communautés se mobilisent pour empêcher autant que faire se peut la construction de certains types de bâtiments, notamment des logements multifamiliaux, dans leur quartier. Pour ce faire, elles ont recours à des clauses restrictives qui constituent une voie légale en la matière. C'est le cas des résidents de Lake Bonavista qui ont lancé une initiative pour empêcher les réalisations d'habitations multifamiliales dans cette communauté du sud-est de Calgary au moyen de clauses restrictives. Il s'agit de contrats juridiques entre propriétaires qui sont rattachés au titre de propriété. Cela signifie qu'elles restent en place même si les propriétaires changent. Elles sont également connues pour être difficiles à supprimer. Le Conseil municipal de Calgary a approuvé en mai dernier sa politique controversée de nouveau zonage général qui permet la construction de différents types de logements comme des duplex et des maisons en rangée dans toutes les zones résidentielles. Bien qu'ils aient accepté d'aménager des appartements secondaires dans les sous-sols et les garages, les habitants de Lake Bonavista entendent toutefois empêcher légalement les promoteurs de démolir des maisons unifamiliales pour construire des immeubles multifamiliaux. Karen Robinson, bénévole au sein du comité chargé de l'initiative sur les clauses restrictives, pense que la construction de tels logements perturbera le tissu de la communauté ainsi que son confort et sa tranquillité. Elle espère ainsi qu'au moins 60 % des résidents du quartier adhéreront au projet afin d'empêcher que les promoteurs n'achètent plusieurs lots côte à côte pour construire de plus grands ensembles. En faisant barrage à une telle possibilité, les résidents pourront conserver une communauté unifamiliale avec de larges rues, des arbres matures et de grandes cours. D'après Curtis Marble, l'avocat qui représente les résidents de Lake Bonavista, 15 à 20 % des membres de la communauté ont accepté d'enregistrer la clause restrictive sur leur titre foncier. Selon le site web de l'initiative, l'enregistrement coûte 500 $ par ménage. L'équipe de Curtis Marble est en train de finaliser ses conventions par lot, environ 70 ménages étant officiellement enregistrés. L'avocat indique que les clauses restrictives sont plus courantes à Calgary qu'on ne le pense, mais que souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'elles figurent sur leur titre de propriété. Il a fallu le nouveau zonage pour que certains s'en souviennent. Une ruée vers les clauses restrictives. De nombreuses autres communautés de Calgary se tournent également vers cette idée de clause restrictive. Curtis Marble travaille également avec Chinook Park, Kelvin Grove et Eagle Ridge en ce sens. Il prévoit que les clauses restrictives deviendront de plus en plus courantes au fil du temps. Tony Morris, un résident de Calgary, juge qu'il est intéressant de voir que de plus en plus de communautés se tournent vers les clauses restrictives comme solution, en particulier dans les quartiers qui sont plus éloignés du centre-ville. Pour sa communauté, il s'agit avant tout d'assurer l'avenir de ses rues sans que la communauté des promoteurs immobiliers ne soit à l'origine de cette décision. Dans une déclaration, la ville de Calgary indique qu'elle n'applique pas les clauses restrictives et qu'elle ne détermine pas leur validité. Il s'agit plutôt d'affaires civiles privées qui doivent être réglées entre les propriétaires fonciers concernés par un accord. Selon l'avocat Curtis Marble, pour faire supprimer une clause restrictive, toutes les parties qui ont signé l'accord doivent y consentir. Il est également possible de déposer une requête auprès d'un tribunal en faisant valoir que la clause n'est plus applicable, soit parce que les gens ont cessé de la respecter, soit parce qu'elle est d'une certaine manière contraire à l'intérêt public. C'était « À Calgary, le logement se heurte aux clauses restrictives », un texte de Radio-Canada avec les informations de Karina Zapata, paru le 23 septembre 2024 sur Ici Alberta.